Je suis Philippe Lagacherie, je suis bortois. J'ai participé dès l'âge de 16 ans au chantier de fouilles, plusieurs années consécutives. Je pense que si mes comptes sont bons, j'ai fait 5 années consécutives entre 16 et 21 ans. C'était entre les années 75 et 79, voilà, exactement. C'était des années d'insouciance, comme je le disais, post-68ard, où la jeunesse d'alors rêvait beaucoup, beaucoup à un monde fraternel, parfait. Voilà, on était très optimistes.
Je suis Monique Andrieux, je suis bortoise. Et en fait, j'ai fouillé à Margeride à partir de août 69 pendant à peu près 10 ans. Voilà, à l'époque, j'avais 10 ans.
Moi, j'ai eu vent des fouilles par André Sira, puisque, enfin, André Sira, on le connaissait tous à bord, puisqu'en fait, il tenait le magasin de jouets qui était stratégiquement situé juste au pied de l'école. Donc en fait, tous les gamins léchaient la vitrine d'André. Et donc tout le monde le connaissait. Moi, mes parents aussi le connaissaient bien. Et donc ils lui ont demandé, parce que j'avais dû manifester un intérêt pour l'histoire et pour les fouilles. Donc ils ont demandé à André s'il était possible de m'intégrer dans les fouilles. Et malgré mon âge qui était assez jeune, puisqu'il y avait déjà Monique qui m'avait précédé, et André m'a accepté.
Dédé Sira, qui est un ami d'enfance de ma mère, et qui m'a proposé de venir fouiller à Margeride, parce que j'étais un petit peu ouverte à tout, je m'intéressais à tout, et donc j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis retrouvée à 10 ans immergée au milieu d'étudiants de la Sorbonne. Il y en avait beaucoup qui avaient plus de 18 ans, qui étaient parisiens, donc la plupart, enfin, et qui venaient un peu de partout en France. Et moi, ça me passionnait parce qu'en fait, c'était une ouverture sur tout. C'était aussi les années post-68ard. Donc, il y avait une ambiance. Voilà. Et moi, en tant que gamine, je découvrais un monde.
Des fouilleurs venaient d'un peu partout. Il y avait quelques locaux comme moi. Je ne sais pas comment se faisait le recrutement. Enfin, c'était un peu chantier de vacances. Hein. C'était des vacances quand même. C'était de l'archéologie. Bon, c'était des gens qui voulaient passer une partie de leurs vacances à faire quelque chose d'intéressant, de l'archéologie. Je m'appelle Jean-Michel Gou. J'ai maintenant 71 ans. Je ne suis pas originaire de Corrèze, mais je suis venu en Corrèze tous les étés, depuis que je suis né. Alors, aux pièces grandes à Margeride, j'y ai fouillé à partir de 1974. En 74, en 1975 et en 1976. 3 ans et à chaque fois 15 jours ou 3 semaines. J'ai connu les fouilles de Margeride à partir du journal La Montagne. Mon père était abonné au journal La Montagne, donc je voyais régulièrement les comptes rendus qui étaient faits, qui étaient bien détaillés à l'époque, et ça m'a donné envie de faire des fouilles archéologiques.
Oui, alors les fouilles, elles étaient organisées en chantier, qui se passaient en été, hein, c'était des fouilles donc intermittentes. Ce chantier était sous la direction d'archéologues. Alors, je ne pense pas que c'était des archéologues professionnels, c'était des archéologues amateurs éclairés, donc qui prenaient la responsabilité de diriger le chantier. Et donc, ils étaient, celui qui chapeautait un peu tout ça, c'était André Sira, qui, lui, ne participait pas aux fouilles, mais était le responsable général des fouilles, et à ce titre-là, il devait sans doute en référer à des gens sur les résultats et tout ça, et avoir les autorisations pour fouiller. C'était des bénévoles qui, comme moi, étaient un petit peu piqués par le virus. Bénévoles, la plupart assez jeunes. Hein, nous, on était les plus jeunes avec Monique. Notre ancienne, c'était Denise, qui était un peu notre grand-mère à tous, et qui jouait très bien ce rôle-là. et qui, je pense, prenaient un plaisir énorme à être avec nous.
Denise avait plus de... je ne sais pas, moi j'avais 25 ans, c'était difficile de lui donner un âge, mais c'était, elle avait 65, 70 ans, c'était la doyenne. Et Denise logeait à l'auberge d'Elpi.
On se retrouvait à l'entrée du site. Donc à l'époque, on devait traverser un chemin qui était dans une plantation de sapins, mais qui avait, je sais pas, une dizaine d'années, qui n'était pas très, très haut. On traversait donc tout ce cheminement, et là, on commençait à fouiller. Donc en fait, on fouillait quand même, je pense qu'on fouillait de 9h à midi. On repartait déjeuner à l'école de Margeride, où donc l'équipe qui était chargée de préparer le repas avait préparé. Et ensuite, on repartait fouiller, je pense, vers 14h jusqu'à 18h. Donc on faisait quand même des bonnes journées de fouilles. C'était très sérieux. Dans la tâche, dans le fait de fouiller, c'était technique. Les gens respectaient parfaitement les méthodes de fouille de l'époque.
La technique de fouille, c'était par carré. Et entre chaque carré, donc des carrés qu'on descendait, qu'on creusait, et entre chaque carré, il y avait une bande d'un mètre de large, qu'on appelait une banquette, qui restait en fait comme témoin un peu, qui pouvait servir pour la stratigraphie, et puis qui servait aussi à passer les brouettes et à passer à pied, sans être dans le terrain de fouille lui-même. Après, donc, pour fouiller un carré, déjà on le délimitait, il y avait un quadrillage qui avait été fait à partir des murs du Fanum, ça faisait un point zéro, aussi bien en altitude qu'en coordonnées, ce qui nous permettait de repérer les carrés qui étaient appelés. On retrouve 3N ou je ne sais plus quoi. Ça permettait de faire un quadrillage. Et donc, une fois le carré tracé, 3 mètres sur 3, eh bien, on décapait déjà à la pioche sur une vingtaine ou une trentaine de centimètres. Donc là, on en remplissait des brouettes. Et après, commençait un travail plus fin, d'abord au piochon, et puis à la truelle.
Surtout avec la consigne de fouiller à plat. Il ne fallait pas faire des trous. Il fallait fouiller le plus à plat possible parce qu'en fait, on essayait de retrouver la stratigraphie, c'est-à-dire qu'en fait, on puisse, par rapport aux objets qui pouvaient être découverts, que l'on puisse les dater en fonction des différentes strates d'occupation du site. Donc en fait, la consigne, c'était vous fouillez à plat, vous n'essayez pas de déterrer les objets. Les objets sont effectivement quelque chose d'important, mais ils ne sont importants que replacés dans le contexte où on les trouve. Donc tout était repéré en X, Y et Z, c'est-à-dire dans les trois dimensions de l'espace. Et de façon à supporter les études ultérieures.
Et quand on trouvait des objets un peu intéressants, en fait, il y a des gens qui redessinaient à l'échelle tous ces objets, d'ailleurs qu'on retrouve dans les carnets de fouilles. On fouillait à la truelle, donc on était à genoux, évidemment, dans la terre, comme je pense ça se fait toujours. Hein. Et le plus dur, c'était de charrier les brouettes de terre. Et donc, une année, on a eu l'agréable surprise. Le camp de la Courtine est venu nous donner un coup de main pour les fouilles. Et en fait, les gars étaient donc des appelés costauds. Et en fait, les appelés étaient ravis de nous charrier nos brouettes de terre en haut du terril. Donc là, on avait pas mal accéléré au niveau fouille.
Je suis Daniel Coulot, je suis le maire de la commune de Margeride et je suis née à Margeride il y a maintenant bientôt 75 ans. J'ai toujours connu moi le site archéologique. J'étais étudiante à Limoges et je n'étais pas là moi non plus, si vous voulez. Et j'ai donc demandé à Monsieur Sira, dont on parle beaucoup, si je pouvais participer aux fouilles. Parce que moi, ça m'intéressait de savoir comment était la technique, quoi, plutôt. Donc, je suis allée une semaine ou une dizaine de jours par an pendant 2 ans. Moi, l'archéologie, quand j'étais jeune, je connaissais rien. Je suis arrivée, on m'a dit, tu te mets là, tu prends ta truelle, tu grattes comme ça. L'organisation, le schéma global, je ne l'ai pas, moi. Hein. Je me souviens d'avoir fouillé un rond de cendres. hein, d'un poteau qui avait brûlé. Alors j'y avais passé peut-être 2 jours, 3 jours à gratter, rien du tout. Enfin, ça paraît insignifiant, quoi. Mais c'était histoire d'apprendre, de voir comment ça se fait.
On avait 2 chefs, en fait. Eux étaient les responsables des fouilles. Donc on était vraiment sous leurs ordres. C'est-à-dire que moi, par exemple, on me disait, bah, toi, tu vas fouiller à tel endroit, dans tel carré. Donc en fait, je passais un mois dans le même carré.
On grattait avec une truelle et en fait, on finissait par avoir une certaine sensibilité à la pénétration de la truelle et tout ça. Et encore une fois, moi, après, ça m'a servi pour mon travail sur les sols. Mais c'était un travail très, très minutieux, très, très intéressant.
Mais ça, c'est vraiment une question d'habitude, hein, de gestes aussi répétitifs, etc. Donc on savait que là, à tel endroit, alors on avait des coupes de terrain, évidemment, quand on descendait, mais on savait à la couleur de la terre, à la texture de la terre, qu'on était sur telle période archéologique.
Je vais vous dire, moi, la truelle, je l'ai là dans la mairie. C'est une petite truelle grande comme ça. Puis vous êtes à quatre pattes ou à genoux. Et puis là, vous passez comme ça, tout doucement, tout doucement, hein, tout doucement, tout doucement, peut-être.
J'ai toujours ma truelle, qui était ma truelle personnelle, que j'avais achetée et qui est usée sur une bonne partie. On voit que le côté qui raclait est plus usé que l'autre.
Ma plus belle découverte. Moi, j'ai pas eu beaucoup de chance. J'ai trouvé beaucoup de clous. Ça, des clous, j'en ai trouvé.
Pendant 10 ans, j'ai trouvé des clous, des tessons de poterie, mais je n'ai jamais fait la découverte de margeride. Ce n'est pas moi qui ai trouvé le petit Cernunnos.
Et on avait pas mal de sigillés, qui était d'une poterie assez, assez délicate, assez fine, vernie, rouge brique, très jolie. Et puis on avait effectivement des poteries un petit peu plus grossières qui étaient d'origine celte, effectivement. Donc on savait qu'il y avait effectivement des différentes strates d'occupation. Et cette sigillée, elle était très intéressante. Cette poterie, elle était très intéressante justement pour dater les couches et les... Et on s'en servait beaucoup pour ça. Voilà. Sinon, des trous de poteaux. Alors, les trous de poteaux aussi, on en a fait pas mal.
Quand quelqu'un trouvait quelque chose d'un peu plus intéressant que des petits tessons de poterie et tout ça, eh bien, on se regroupait tous autour et puis on regardait celui qui avait la chance de gratter autour de l'objet un peu différent de l'ordinaire et on attendait de voir ce que ça donnait au final.
On n'a pas trouvé grand-chose, à part Faustine et puis le Cernunnos, enfin, les deux clous de ce qu'on a trouvé, c'est ça, quoi. Et en particulier Faustine. Moi, je me rappelle de ce moment où on l'a trouvé, et c'était émouvant. C'est pas moi qui l'ai trouvé, mais bon, quelque part, on y était. Et on était tous autour pour assister à l'exhumation. Et ça, c'était émouvant, effectivement. Donc je l'ai vécu par copain interposé. Et donc, c'est ça, la plus belle découverte, mais elle est collective, en fait.
J'ai un souvenir d'avoir trouvé quelque chose qui ressemblait à un tuyau en bronze, quelque chose qui pouvait être creux, qui était long, et qui était, je me disais, c'est un morceau de bronze. Et puis, en fait, en grattant, c'était une racine de fougère.
Quand on fait de l'archéologie, tout le monde, les gens en général pensent on va trouver un trésor. Et en fait, c'est pas du tout ça l'archéologie. C'est le surtout, enfin à l'heure actuelle, l'archéologie est beaucoup plus axée sur le quotidien des gens. Je cherchais pas un trésor en fait. On essayait de reconnaître un peu le lieu, de savoir ce qui se passait à l'époque, de retrouver des éléments qui pouvaient venir, par exemple, des sigillés, des poteries sigillées, des choses comme ça, qui venaient de loin. Donc, pour eux, on disait, tiens, il y avait des échanges commerciaux entre tel et tel point, etc. Voilà, donc c'était la curiosité, mais c'était pas du tout le côté trésor. Le soir, après les fouilles, les gens classaient tous les objets et les répertoriaient. Donc d'ailleurs, sur les poteries, on a tout un tas de petits... c'est répertorié, c'est écrit à l'encre de Chine, c'est écrit à la plume. à l'encre de Chine. Et en fait, on a exactement la localisation de l'endroit où a été trouvé l'objet. Donc il y a des gens qui essayaient d'assembler les poteries, tout ce qui était terre cuite, etc.
On avait des séances de brossage des tessons. Et éventuellement, quand il y en avait plusieurs, on essayait de reconstituer les tessons, on essayait de les recoller pour faire des morceaux un peu plus gros. Voilà, et on les référençait. Et après, ils étaient conservés. Et donc, ils doivent toujours être quelque part, j'imagine. Il doit y avoir des tonnes et des tonnes de tessons.
Et il y avait, dans l'ancienne école de Margeride, une pièce qui était consacrée à un petit musée où il y avait des objets qui avaient été trouvés sur place, enfin, à Margeride, et qu'on faisait visiter. Il y avait même un livre d'or, ce serait intéressant de le retrouver, où il y avait des visites commentées. On faisait, c'était un peu à tour de rôle, mais c'était surtout ceux qui se sentaient d'attaque pour expliquer aux visiteurs l'époque gallo-romaine, ce que c'était, et expliquer le fanum et tout ça. Donc il y avait des volontaires pour faire les explications. Moi, j'étais plutôt pour fouiller.
L'école, c'était un lieu très vivant, ils étaient tous là, et ils y vivaient même, donc...
Les fouilleurs restaient soit une semaine, soit 15 jours, ou 3 semaines peut-être au maximum. Donc il y avait un roulement, ce n'était pas toujours les mêmes, ce n'est pas toujours les mêmes équipes. On n'occupait que les deux salles de classe au rez-de-chaussée. Donc une ancienne salle de classe qui servait pour les repas, et l'autre qui servait de ce petit musée dont j'ai parlé.
On se levait, donc on était logés à... Dans l'école de Margeride. Alors il y en avait qui campaient, d'autres qui étaient dans un espèce de dortoir, dans une ancienne salle de classe. Voilà, donc on se levait petit à petit, on déjeunait pas très tôt, hein, on n'était pas très matinaux. Donc bon, si je me souviens bien, vers 10h, 10h30, on faisait route sur le chantier. Je me rappelle plus si on revenait à midi. Voilà. Donc on travaillait sur le chantier, on se répartissait sur les différents carrés et on fouillait là. Je crois qu'on rentrait à midi, oui. Donc il y avait ce chemin qui était aussi très très beau à l'époque. Il a beaucoup changé. Il y avait un petit chemin qui était dans la forêt et c'était notre sas entre les fouilles et puis l'extérieur. Alors voilà, après il y avait 4 ou 5 kilomètres de route, et puis on revenait à Margeride. On ne faisait pas la journée continue, oui, il me semble qu'il y avait quand même entre... Parce qu'il faisait chaud quand même, c'était l'été, donc entre 2h, 3h, voilà, c'était un moment de farniente, de sieste, voilà, de discussion, voilà. Et puis on repartait faire le soir, et puis voilà, on rentrait le soir vers 7h, 8h. Et là, on commençait à préparer à manger, et puis les gens vaquaient à leurs occupations, on discutait les uns avec les autres, on allait éventuellement prendre un pot chez Delpy, c'était un peu ça, quoi.
Il y avait à l'époque 3 hôtels à Margeride. Il y avait l'auberge Delpy. Donc certains étaient à l'hôtel, mais faisaient quand même les repas, prenaient les repas avec les autres.
Concernant l'organisation des repas, c'était chacun son tour. Donc on avait des tours de garde pour préparer les repas.
On devait être trois, il devait y avoir trois personnes pour faire la cuisine, pour préparer le repas. Donc c'était une équipe pour la journée. On devait changer tous les jours, par roulement. Les repas, on les prenait dans le préau de l'école, sur une table en bois, avec des bancs, et il y avait quelques armoires fermées qui permettaient de garder les provisions, comme les confitures du petit-déjeuner ou les paquets de pâtes.
Donc André Sira récupérait tout le matériel, se faisait prêter le matériel par le camp militaire de la Courtine. Et donc, il nous prêtait tous les marabouts, donc les grandes tentes pour, je ne sais pas, 20 personnes, et les lits de camp, enfin tout le matériel.
À l'école, il n'y avait pas de quoi se laver. Donc, on avait en face de l'école, il y a le cimetière. Et donc, à l'entrée du cimetière, il y avait un robinet. et on allait faire la toilette au robinet à l'entrée du cimetière.
Je ne me rappelle que des bons moments. Ces repas pris dans l'espèce d'appentis qu'il y avait à côté de l'école de Marguerite, où en fait, chacun son tour faisait la cuisine. Alors, ce n'était pas toujours réussi. Mais par contre, y avait une ambiance là-dedans qui était super. Les gens s'échangeaient. Et puis le soir, ça finissait avec de la musique. Donc on avait des soirées, effectivement, avec la guitare. Mais là aussi, la musique, bon, j'ai fait pas mal de musique. Mais c'est là où j'ai découvert comment la musique pouvait être conviviale et comment, en fait, dans un groupe de gens, ça pouvait lier les gens et faire passer des moments fantastiques. On était un petit peu facétieux sur certains aspects, notamment surtout les nouveaux qui arrivaient. On leur faisait des fausses découvertes. C'est-à-dire qu'en fait, on enterrait des objets loufoques. Et on faisait découvrir ces objets aux gens, et voilà, ça nous faisait rigoler.
On a sacrifié une fouilleuse sur un autel, à coup de machette. Donc nous avons la photo, et donc on la voit sacrifiée sur ce qu'on avait... on avait décrété que c'était un autel, attachée sur une planche, avec un fouilleur qui brandit une machette au-dessus de sa tête. Bon, on s'en est resté là, hein. Mais ça m'avait bien amusé. C'était très... disons que les fouilles, c'était quand même très, très ludique. C'était des étudiants qui étaient là pendant leurs vacances et qui avaient envie de s'amuser et le soir, qui faisaient la fête. Hein. On fait la fête, mais c'était raisonnable. Mais c'était très sympa, c'était très convivial.
Ah, mais c'était une ambiance formidable, extraordinaire, parce que c'était des jeunes qui venaient de toute la France, qui avaient l'habitude de se retrouver entre eux, qui étaient des jeunes étudiants, par rapport à nous, les provinciaux. Quoi, qui étaient... Et donc, c'était vraiment... Et puis, ils se retrouvaient tous les ans. Hein. Donc, ça mettait une ambiance, là, entre les trois bistrots, formidable. Hein, vraiment, on dit que, globalement, ça faisait 150 personnes. Je les ai jamais comptées. Mais c'était vraiment... Il y avait une vraie vie. Et les gens qui l'ont connu disent, oui, il y avait du monde, ça faisait vivre. Quoi. Ils étaient dynamiques, ces jeunes. Cet échange, je sais que mon père, qui était un simple paysan, quand il parlait avec l'archéo, M. Mercier, c'était des gens tout à fait simples et gentils. Et il y avait un échange vraiment profond, de respect. Quoi, hein, voilà. Et c'était intéressant pour tout le monde. Quoi. Tout le monde y gagnait, à mon avis.
Pour moi, c'était le mois d'août, c'était une période de joie, de bonheur, d'ambiance sympa, de gens qui racontaient des choses, qui venaient d'ailleurs, des étudiants aussi qui me parlaient de mai 68, et qui venaient d'un peu partout en France et qui étaient ouverts surtout sur le monde. Donc même à Marguerite, petit village du centre de la France, petit village de Gaulois, n'est-ce pas, on avait une ouverture sur le monde. Enfin, moi, j'avais une ouverture sur le monde.
C'était des gens qui avaient... Voilà, qui étaient bouillonnants, qui avaient très intéressants, qui étaient au début de leur vie, avec plein d'espoir, plein de bouillonnement. Et pour un ado qui arrive de son coin, un peu perdu, il faut dire, hein, Bord, c'est pas un endroit où, en fait, souffler un vent culturel très, 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 très riche. Donc, pour moi, ça a été un peu une ouverture, un peu, j'ai dit, ah ben oui, ça peut être ça, de passer sa jeunesse, ses idées, ses aspirations. Moi, j'ai gardé de ça, ça m'a construit, en fait. Ça m'a construit.
Et je m'appelle Marie-Claude Delpy-Besse. Donc, je suis margeridoise depuis plus de 70 ans. André Sirat est venu contacter mes parents qui avaient un petit bar-restaurant dans le bourg de Margeride pour savoir si ça les intéresserait de faire des repas à des fouilleurs. Je sais que ça a quand même fait bouger un petit peu les gens du village. Moi, la première qui ne m'y intéressait pas, j'ai quand même fait quelques visites pour voir comment ça progressait. Je ne sais pas combien il pouvait être, moi, en pleine saison, peut-être, je dirais, au niveau des jeunes, peut-être 25, plus les couples avec enfants après qui dormaient à l'hôtel. C'était une ambiance de jeunes, mais une ambiance agréable. Bon enfant, hein, les jeunes s'entendaient bien avec les moins jeunes. Hein, ils s'entendaient bien aussi avec les responsables. Ils étaient quand même bien encadrés. Parce que je me souviens d'André Sira qui était là. Il venait tous les jours, hein, ou pratiquement. Ils faisaient des petites fêtes entre eux. Ils invitaient même les jeunes du village, je dirais. Oui, c'était très agréable, c'était décontracté, quoi, très décontracté. Sauf après au travail, c'était différent. Mes parents, ça leur faisait du travail, hein, parce que bon, chaque année, après, ils revenaient là où ils étaient venus au départ. Il y avait déjà davantage de monde, il y avait davantage de va-et-vient, il y avait un peu de musique, il y avait cette bande de jeunes fouilleurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et qui allait dans les trois restaurants, épiceries du village. Ça bougeait davantage que les années précédentes. Avec peut-être des idées, des coiffures, tout ce qui était vestimentaire, ça pouvait changer de notre campagne. Voilà, parce que c'était des jeunes aussi qui venaient de région parisienne, en fait de toutes les régions de la France. Que ce soit de la région parisienne, le sud. Donc, c'est vrai qu'on voyait autre chose, quoi.
Ça a été vraiment très, très important pour mon épanouissement personnel et aussi pour les choix que j'ai faits dans la vie après, quoi. Donc voilà, ma plus grande découverte, elle est là, en fait.